Nzamba.
Nzambira samirana.
Le journal avec Joséphine Jones Mundimana.
Vous êtes bien sur la radio Inzamba Agathe Kakawe, c'est l'heure du journal en français, donc voici d'abord la charpente. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples appelle au pouvoir de Guy Tega à garantir la protection d'une dizaine de défenseurs des droits de l'homme en exil et condamnés dans le dossier du coup d'État manqué de 2015. C'est dans une lettre adressée au président Evariste Ndayishimiye à la veille d'une session de cette commission. Le monde entier célèbre le 11 octobre la journée mondiale de la fille. Le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi, Inamahoro, constate avec amertume que la fille reste discriminée dans beaucoup de domaines au Burundi. Trois militaires burundais en mission en République centrafricaine viennent d'être rappelés et rapatriés au Burundi. Ce serait dans le cadre des enquêtes sur un cas de détournement d'argent au bureau des traitements des forces de défense nationale, FDN. Voilà pour le sommaire de ce journal. Merci d'avoir choisi ce rendez-vous d'information.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples demande au gouvernement burundais de garantir la protection de 12 défenseurs burundais des droits de l'homme en exil et condamnés dans l'affaire de tentative de putsch du 13 mai 2015. C'est le contenu d'une lettre envoyée au président et chef de l'État, Evariste Ndayishimiye, par le président de cette commission africaine qui a son siège à Banjul, en Gambie. Le commissaire Mingo Ilumbu a écrit cette lettre à la veille d'une session prévue ce mois d'octobre. Le dossier de ces défenseurs des droits de l'homme burundais sera au rendez-vous. On fait le point avec Evelyne Mokeshimana.
Dans cette lettre datée du 29 septembre dernier, le président de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples écrit au président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, pour lui demander de prendre des mesures conservatoires nécessaires en faveur des 12 défenseurs des droits de l'homme burundais condamnés arbitrairement dans le dossier du putsch du 13 mai 2015, de leurs familles et de leurs avocats. Le commissaire Remingo Ilumbu explique que la commission a admis sur son rôle la communication introduite par l'organisation Defender Defenders qui s'occupe de la protection des défenseurs des droits humains dans la région est-africaine et de la Corne d'Afrique, la dite communication concernant le putsch qui a impliqué les 12 hommes et femmes, journalistes et acteurs de la société civile. Ils ont tous été jugés sans être entendus. La lettre de la Commission africaine des droits de l'homme a aussi précisé que tant le souci de garantir un procès équitable, les émissaires et avocats de ces 12 personnes n'ont pas eu l'autorisation du gouvernement burundais. Le président de la CADHP rappelle en effet que dans son règlement intérieur de 2020 relatif aux mesures conservatoires, la Commission requiert à l'État défendeur, en déant 15 jours, un rapport sur la mise en œuvre des mesures conservatoires demandées. La semaine prochaine sera donc le rendez-vous pour le gouvernement du Burundi de donner son rapport au sujet de cette plainte de 12 défenseurs burundais des droits humains à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Leur point commun est de s'être opposé au troisième mandat inconstitutionnel de feu président Pierre Nkurunziza, un troisième mandat qui violait aussi l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation du peuple burundais.
Le monde entier célèbre aujourd'hui, le 11 octobre, la journée mondiale de la fille, l'occasion pour le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité Inamahoro de déplorer le fait que beaucoup de Burundais soutiennent l'inégalité entre le garçon et la fille par ignorance. Pour Marie-Louise Valichako, présidente de ce mouvement, la culture burundaise est restée discriminatoire en donnant des faveurs aux garçons. Écoutez Marie-Louise Valichako.
Nous sommes d'autant plus concernés que souvent, par ignorance, nous avons cautionné l'inégalité entre nos enfants. Nous avons accepté la culture discriminatoire consacrant le garçon comme seul enfant qui héritera et perpétuera la lignée de son père, tandis que la fille, appelée communément Akarago Kabaraye Inzilaya Bagenda, sera toujours l'infatigable main d'œuvre chez son père et chez son mari, n'ayant ni place ni avenir chez ses parents. Par ignorance de nos droits, nous avons laissé les hommes, nos frères, s'exprimer et décider sans tenir compte de notre opinion quant à notre droit à la succession en tant que filles de nos familles au même pied d'égalité que nos frères. Par la même ignorance, nous avons nous-mêmes facilement consenti au traitement inégal de nos enfants lorsque les moyens financiers faisaient défaut, par exemple, dans la famille. Il était suggéré que la petite fille quitte l'école et aille même travailler au besoin pour contribuer à payer les frais de scolarité de son frère. Connaissant aujourd'hui l'importance de l'accès à l'éducation pour nos filles, nous ne laisserons plus leur discrimination passer devant nos yeux et notre attention. Nous ne nous tairons plus. Nous sensibiliserons et mobiliserons toutes nos communautés afin qu'elles réalisent que la scolarisation de la fille n'est plus seulement une option, mais un devoir pour le meilleur avenir du pays et du monde.
Et l'emprisonnement de la journaliste Floriane Irangabiye, c'est l'un des cas qui démontre qu'il n'y a pas d'avancée en matière des droits de l'homme au Burundi, contrairement aux déclarations de certaines autorités burundaises. C'est le constat fait par la CAT Burundi. Jean-Claude Niburumunsi, chargé du département juridique au sein de cette organisation, explique que son emprisonnement viole la procédure normale en matière, vu qu'elle vient de passer plus de 30 jours sans qu'elle soit présentée devant le juge. Il demande qu'elle soit libérée sans condition. Écoutez.
Le cas de Floriane Irangabiye est un cas qui s'ajoute à plusieurs autres cas de détenus et qui sont victimes de la violation des règles de procédure pénale qui normalement devraient être appliquées avec rigueur compte tenu de leur caractère d'ordre public. Le cas de Floriane Irangabiye prouve à suffisance que les détenus poursuivis pour des infractions à caractère politique subissent toujours un traitement particulier en leur défaveur, même s'il y a beaucoup plus de partenaires du Burundi qui disent qu'il y a changement au pays avec le nouveau pouvoir de Evariste Ndayishimiye. Nous constatons et nous reprouvons avec ce cas-ci qu'il n'y a pas de changement dans le système de gouvernance en place. En effet, Floriane Irangabiye a été transférée à la prison de Muyinga, très loin du parquet où est pendant son dossier, alors qu'elle avait déjà dépassé les délais prescrits pour être entendue en chambre de conseil avec celle-ci se prononce sur la détention provisoire. Le fait de le transférer à Muyinga au lieu de le faire comparaître devant le juge prouve à suffisance la mauvaise foi de l'autorité pénitentiaire dans la gestion de cette affaire. La prévenue va davantage rester en prison alors que le titre de sa détention est périmé. Il s'agit d'une détention pure et simple, arbitraire. Nous demandons donc au parquet qui instruit cette affaire de mettre en liberté Floriane Irangabiye conformément au prescrit du code de procédure pénale. Nous demandons également au ministre de la Justice de faire respecter les lois et ordonner à ces subalternes de libérer sans condition Floriane Irangabiye.
Quatre hommes, tous de la colline Tava, en commune Ruhororo de la province Ngozi, sont depuis ce lundi en garde à vue au cachot de police de cette commune. L'un est accusé d'avoir tué dans la nuit de dimanche à lundi, à coups d'un pilon, une femme de 46 ans. Les sources administratives précisent que le présumé assassin s'était chamaillé avec la victime avant de poser cet acte criminel. Les trois autres ont été arrêtés pour des raisons d'enquête. Le mois passé, il avait été enregistré deux autres cas d'assassinat. L'administration communale demande aux habitants d'en découdre avec les règlements de compte et plutôt saisir l'administration ou les services judiciaires en cas de nécessité.
Inzamba.
Je vous le disais en titre, trois militaires burundais en mission dans la République centrafricaine ont été rappelés par le commandant des forces de défense nationale du Burundi, FDN, ce lundi. Ces militaires avaient presté avant le déploiement au sein du bureau de traitement de la FDN. Dans le message qui exige le rapatriement, il est bien noté que ce sont eux-mêmes qui se prendront en charge pour ce qui est des frais de voyage. Ils faisaient partie du 7e contingent de la mission des Nations Unies en République centrafricaine, MINUSCA. Le rapatriement intervient dans le cadre des enquêtes sur le détournement des fonds au sein du bureau des traitements. Plus de détails avec Eddie Claude Ninina Hansgui.
Ces militaires qui ont été rappelés de leur mission sont des sous-officiers de l'armée qui sont d'anciens cadres du bureau de traitement. Il s'agit de l'adjudant-major Pasteur Ngelaha, adjudant-chef Nimilangeza Désiré et l'adjudant Sengiyumva Alain Georges. Ils étaient dans le 7e contingent burundais de la mission des Nations Unies pour la stabilisation de la République centrafricaine, MINUSCA. Dans le formulaire de messages exigeant leur rapatriement, il est noté que leur retour au pays est immédiat et que les billets d'avion seront payés par les intéressés eux-mêmes. Les informations que nous détenons des sources au sein de l'armée burundaise indiquent que les 3 sous-officiers ont presté au sein du bureau central de traitement, le BT, l'ancienne direction centrale de traitement DCT, avant leur déploiement en Centrafrique. Les mêmes sources disent en outre qu'ils ont été rappelés pour faciliter les enquêtes de l'auditorat militaire relative au détournement des fonds de l'armée au niveau du BT. Le rapatriement intervient après l'arrestation de plus de 60 militaires accusés d'avoir trempé dans ce détournement. Ils sont en garde à vue dans les cachots du bataillon police militaire du PM. Ces mêmes sources indiquent que ne pas comprendre pourquoi le chef de ce service, le lieutenant-colonel Sahabo, n'est pas jusqu'ici poursuivi, alors que c'est lui qui s'occupe du contrôle du personnel avant la clôture du service. À la rédaction de la radio Inzamba, Agathe Kakawe, nous n'avons pas encore eu la version du colonel Floribert Wiereke, porte-parole de l'armée burundaise, pour éclairer l'opinion sur ce détournement de fonds signalé au bureau de traitement de l'armée BT.
Merci Eddy Claude et Nina Azoué. C'est une flambée des prix des produits de première nécessité dans la province de Lomongué. Les habitants sont inquiets et demandent aux autorités habilitées de trouver une solution avant que la situation qui s'ajoute à la pauvreté ne dégénère. Les détails avec Pierre Gahungu.
Les habitants du chef-lieu de la province Lomongué disent ne plus pouvoir prévoir des frais d'approvisionnement sur le marché suite à une variation journalière du prix des denrées alimentaires. Le haricot s'achète entre 1700 et 2500 francs burundais, alors que dans un passé récent, son prix ne dépassait pas 1000 francs. Un kilo de riz qui s'achetait au maximum à 1500 francs coûte actuellement 3500 francs. La farine de manioc, aliment principal des habitants de Lomongué, qui s'achetait normalement à moins de 1000 francs, surtout pendant la saison sèche, se vend actuellement à 1500 francs. Le prix des grains de maïs gravite entre 1800 et 2000 francs, comme le précisent nos sources à Lomongué. Ces produits constituent l'alimentation de base pour la plupart des habitants de cette province du sud-ouest du Burundi. Les prix de ces produits montent alors que le gouvernement a récemment autorisé l'importation de certains produits. Selon les habitants de Lomongué, la mesure n'a rien changé. La flambée des prix ne concerne pas que les produits alimentaires, elle touche aussi ceux de la Brarudi. Des habitants de Lomongué parlent d'une pénurie presque totale de ces derniers et une flambée extrême des prix. Une bouteille d'Amstel blonde s'achète à 3500 francs alors que le prix officiel était de 1900 francs. La Primus, dont le prix officiel est 2500, se vend à 2000 ou 2200 francs. Ces prix s'accentuent encore plus dans des buvettes situées en dehors du centre-ville de Lomongué. Pourtant, l'autorité provinciale a récemment sanctionné les spéculateurs. Mais la mesure n'a rien changé pour ce commerce, dont certaines autorités administratives, policières, les représentants du parti au pouvoir, ainsi que les autorités militaires, en ont fait leur monopole en province Lomongué, indiquent les mêmes sources. La rédaction de la radio Inzamba, Agathe Kakawe, n'a pas encore trouvé consolateur Nitunga, gouverneur de la province Lomongué, pour s'exprimer à ses préoccupations de la population.
De Lomongué à Muyinga, la décision de fermer 2 points de vente des produits vivriers et des boutiques assises sur la colline Mukoni, prise par l'administrateur de la commune Muyinga, a produit des effets néfastes sur le vécu quotidien de la population et des ménages en particulier. C'est ce qu'affirment certains consommateurs en mal de se rendre au marché de Mukoni au prix d'un effort exceptionnel. Ces consommateurs interpellent l'administrateur de la commune de revoir sa décision. Le point avec Karine Dossavé.
Depuis la fermeture de ces marchés minuscules des produits vivriers et ces boutiques sises à la commune Mukoni, en commune Muyinga, les consommateurs de cette localité contraints de s'approvisionner au nouveau marché de Mukoni ne cessent de se lamenter. Selon ces consommateurs, cette décision a produit des effets néfastes sur la vie des ménages qui étaient habitués à s'approvisionner tout près de leur habitation, mais aujourd'hui contraints à payer un ticket de transport pour atteindre le tout nouveau marché de Mukoni. À titre d'exemple, on est obligé de faire déplacer un sac de charbon à 1500 francs burundais, alors qu'auparavant, c'est le vendeur lui-même qui se chargeait du transport jusqu'au domicile de l'acheteur. Ce qui est pour le moment impossible car les vendeurs du charbon ne sont pas autorisés à mettre le pied au marché central de Muyinga avec leurs bagages. Il en est de même pour les autres produits que le consommateur achète et pour lesquels il est obligé de débourser de l'argent pour le transport. Les consommateurs trouvent cette décision inopportune. Ils appellent l'administrateur Amédée Missahago à interroger la raison en vue de sursoir sur la décision de fermeture de ses points de vente et boutiques pour le bien des familles de la localité de Mukoni. Depuis longtemps, estiment ces consommateurs, chacun fréquentait le marché de son choix et de préférence où l'on vendait des produits à des prix intéressants. La radio Inzabagateka Kawe, nous n'avons pas encore trouvé par téléphone l'administrateur de la commune Muyinga pour connaître sa version sur ces lamentations des habitants de Muyinga.
Et pour clore ce journal, l'association CDBH Vicar, qui milite en faveur des droits des réfugiés vivant dans les camps, déplore un plan de rapatriement forcé des réfugiés burundais dans la région des Grands Lacs. Dans un communiqué sorti ce mardi, cette organisation montre qu'il y a une catégorie des réfugiés qui ne peut pas rentrer au pays sans une garantie de sécurité. Le vice-président de l'association, Léopold Chalangabo, demande plutôt au ACR de convaincre le gouvernement burundais d'accepter le dialogue inclusif qui puisse permettre aux réfugiés de rentrer en toute quiétude. Écoutez.
Les propos du chargé de la protection au HCR régional selon lesquels HCR et les partenaires vont voir comment changer le rapatriement volontaire à rapatriement massif, ça nous a beaucoup inquiétés. Cela signifie qu'ils vont prendre une décision de rapatrier forcément les Burundais. À ce sujet, nous l'avons signalé dans notre déclaration qu'une fois rapatrier forcément les réfugiés burundais, ça sera une grande violation des conventions de Genève de 1951 en rapport avec les réfugiés, à ses articles 1er et 33. Parce que il y a beaucoup de réfugiés burundais qui ne peuvent pas rentrer sans que la sécurité ne soit garantie. Par exemple, les policiers, les journalistes, il y a aussi les ex-militaires et policiers, les défenseurs des droits de l'homme, sans oublier beaucoup de manifestants. Deuxièmement, le mandat du rapporteur spécial a été renouvelé. Cela montre qu'il y a encore de graves violations des droits de l'homme au Burundi. Même les rapports des organisations locales et internationales le montrent. C'est la raison pour laquelle la CDH Vicar demande d'abord au HCR et les pays partenaires du HCR d'exhorter au gouvernement burundais d'accepter le dialogue inter-burundais, y compris les opposants, pour que tous les Burundais puissent rentrer en dignité, plutôt que de rêver le rapatriement forcé.
Et bien voilà, c'est par là que nous mettons un point final à ce journal. Merci pour votre fidélité à la radio Inzamba Gatekakawe. Au revoir et à la prochaine.